des polars et des notes.
Voici venu l'heure de la littérature noire, c'est l'heure de l'intrigue et de l'enquête. Bienvenue et bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Des polars et des notes, votre rendez-vous mensuel avec les polars, les thrillers et les romans noirs sur Radio Évasion, Radio Balise et Radio Laser. Comme tous les ans, même si crise sanitaire oblige, cette rentrée est un tantinet allégé. Les sorties se bousculent au portillon. 511 romans sont annoncés. Je ne les ai pas comptés, je vous rassure. Ce sont les chiffres officiels. Nous allons vous en faire découvrir quelques-uns aujourd'hui. Inutile de prendre des notes. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les références sur le webzine 404. Pierre-Yves, derrière sa console, est au sommet de sa forme automnale. On débute en douceur avec des fleurs et de la danse. Ça s'appelle la valse des tulipes. C'est de Yvonne Martin, paru aux éditions Actes Sud dans la collection Actes Noirs et traduit de l'espagnol par Claude Bléton. Ça se passe au Pays Basque, dans l'estuaire de l'Urdabay. Et c'est là où se situe la petite ville de Guernica, celle qui est rendue célèbre par les premières sinistres exactions de la Luftwaffe et la toile de Pablo Picasso. La sous-officier Anne Sestero vient d'être propulsée à la tête d'un tout nouveau service de la police autonome du Pays Basque, l'USHN. C'est l'unité spéciale d'homicide notoire, c'est-à-dire une unité de police qui s'occupe des crimes sur des hautes personnalités. Et aussitôt affectée à une enquête relative à l'assassinat particulièrement horrible de la journaliste très connue de Radio Guernica, Natalia Echano. La victime étant attachée sur une chaise en travers des rails et elle a été écrasée par le train régional conduit par son mari. On peut difficilement rêver mieux. Non seulement ce thriller est fort bien écrit, très prenant, mais il ne se contente pas du thème habituel du tueur en série, des flics épuisés, d'un nanny qu'on a vu des milliers de fois. Les personnages y sont tous particulièrement bien travaillés et l'intrigue plonge ses racines dans les crimes passés du franquisme et de sa vieille complice, l'Église catholique espagnole. Il y a un petit peu de musique parce que Anne, la policière, est aussi membre d'un groupe et on va s'écouter Berry Charak, Lemak Angorak. L'intelligence artificielle va-t-elle modifier notre rapport à la mort ? Peut-être pas dans l'immédiat, mais c'est une question à se poser pour les années à venir. Et c'est le thème du dernier roman de Sylvain Forge, prix du Quai des Orfèvres 2018 avec Tension Extrême. Un livre intitulé « Sauve-la » paru aux éditions Fayard dans la collection Fayard Noir. Bonjour Sylvain Forge.
Bonjour.
Alors, intelligence artificielle, votre personnage principal, Alexis Lepage, a tout pour être heureux. Il a un poste inespéré dans la compagnie d'assurance de son beau-père et un prochain mariage avec Clémence, une jeune femme qu'il aime d'ailleurs. Hein. Et tout pour être heureux, excepté qu'il est particulièrement troublé par des messages sur son téléphone portable qui proviennent de Clara, son ex.
Voilà, c'est ça. Une ex qu'il n'a pas revue depuis
26 ans.
26 ans, voilà.
Oui, c'est l'éruption de la technologie dans une vie bien rangée.
Voilà, c'est ça. Ce qui prend la forme d'un banal SMS, en fait. Voilà. Donc, disons que je pense que le principe du polar, c'est toujours de prendre une situation lambda et de se dire qu'est-ce qui se passerait si quelque chose clochait. Voilà. Comment les choses pourraient-elles clocher? Comment les choses pourraient-elles aller de pire en pire? Et on prend des interactions, on imagine des contextes et on se dit qu'est-ce qui se passerait si les choses se dégradaient, si quelque chose surgissait dans l'apparente banalité des choses et qu'est-ce que ça entraînerait comme conséquence. Donc c'était un peu le postulat que j'ai pris pour ce roman. Un homme ordinaire qui va se marier, qui a un projet de procréation médicalement assistée avec son épouse et soudain le passé ressurgit, une ex qui est de retour. Alors évidemment, c'est pas là c'est là qu'un des aspects de l'histoire, parce que ça pourrait être assez banal, mais ce qui est pas banal, c'est qu'elle revient dans son téléphone, et ça va entraîner un certain nombre de conséquences importantes pour la suite.
Et puis ce qui est pas banal non plus, c'est que même au bout de 26 ans, il l'a pas oublié, parce que c'est son premier amour, et qu'ils sont quittés sans se quitter, ça a traîné comme ça, et qu'ils se retrouvent... presque à se comporter comme un homme menant une double vie entre son téléphone et sa fiancée.
Oui, ça c'est d'ailleurs quelque chose qui doit être assez banal aujourd'hui pour les hommes ou les femmes d'ailleurs qui ont effectivement une double vie. Il est très facile avec un smartphone d'avoir une double vie puisqu'on reçoit sa messagerie personnelle sur son smartphone, donc on peut tout à fait faire ses petites affaires dans son coin sans que son conjoint n'en sache rien. Donc ça, effectivement, c'est la révolution numérique permet tout à fait ce type de vie parallèle. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Clara, c'est donc son amour de jeunesse, qu'il n'a pas vu depuis 26 ans, effectivement, cette histoire s'est terminée de façon un peu abrupte, sans cause réelle, donc il l'a un peu idéalisée. Voilà. Et donc, au fil des années, il a maintenant une image d'elle qui est tout à fait romancée, idéalisée, qui s'est peaufinée avec le temps. Et donc, il y a deux femmes qui sont en compétition, finalement, la femme qu'il a rencontrée, qui est de chair et de sang, et qui partage avec lui le quotidien, et je dirais les affres du quotidien, voilà, que tous les couples connaissent. Et puis, cette autre femme, j'ai envie de dire, qui pour l'instant est virtuelle, idéalisée, et qui l'a évidemment parée de toutes les vertus. Et donc, le combat est un peu inégal, quelque part, entre les deux.
Surtout qu'elle lui confie une mission, et ça, c'est extraordinaire dans une vie où il s'ennuie quand même un petit peu. Il faut le dire, Alexis, c'était pas ce qu'il avait rêvé, les assurances. Ouais. Et elle lui confie une mission, c'est de retrouver sa fille, Clara, qui a eu un accident d'autocars à la frontière entre l'Espagne et la France, et où malheureusement les victimes ont été gravement brûlées, et les corps à peine reconnus, sa fille a été identifiée parce qu'elle avait des papiers à moitié carbonisés dans sa poche, et ça tout d'un coup ça devient extraordinaire pour lui, c'est une aventure.
Oui, parce que que Clara le recontacte après tout ce temps, c'est déjà un choc dans sa vie. Ensuite elle lui demande de retrouver sa fille. En apparence, c'est une requête qui paraît tout à fait fondée et sensée, sauf qu'évidemment, elle repose sur une sorte de photo que Clara aurait vue sur un site internet où on voit une jeune femme de dos avec un petit garçon. Franchement, pour Alexis, c'est loin d'être évident qu'on ne peut pas du tout identifier vraiment cette femme. Mais Clara, elle, est persuadée que c'est sa fille. Elle a cet argument un peu massue qui dit que toute mère est capable de reconnaître son enfant, même dans une foule, même de dos. Ce qui est sans doute vrai, je pense d'ailleurs, pour être moi-même papa, je pense que c'est possible. Mais évidemment, lui, pour Alexis, qui ne connaît pas cette personne, ça paraît un peu fumeux. Et donc, il va se retrouver vraiment, en tant que protagoniste, confronté à des choix, à des dilemmes qui sont assez importants dès le début du roman.
Et il se contente au départ de ces conversations via une application avec Clara. Et petit à petit, l'angoisse monte parce qu'il se rend bien compte que les conversations ne sont pas tout à fait naturelles et qu'il a plus ou moins affaire à un chatbot. Et c'est là où on en vient à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que la machine prend un peu la place de l'être humain.
Oui, c'est vrai qu'il trouve très étrange assez rapidement que Clara ne veuille pas
le rencontrer.
Elle explique qu'elle est loin, que c'est pas possible. Donc évidemment, il est amèrement déçu, puisque après le choc savoureux de ses retrouvailles et de la perspective de la revoir, vient l'amère déception que finalement il ne la reverra probablement jamais. Et tout ce qu'il peut avoir comme contact, c'est cette messagerie en fait qui lui est envoyée. Et pardon, je ne me souviens plus de la question, mais...
si peu à peu, il y a un sentiment de malaise quand même.
Oui, voilà, le malaise s'installe, comme on peut le ressentir d'ailleurs avec tout ce qui relève à la fois des mondes virtuels, effectivement des robots conversationnels, aujourd'hui la facilité avec laquelle... Enfin, comme disait au début d'Internet, quelqu'un avait dit... sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien, ce qui voulait dire en fait qu'on ne pouvait jamais vraiment savoir quelle était la personne qu'on avait de l'autre côté du clic en fait, lorsqu'on recevait un mail ou lorsqu'on engageait une conversation par texto, enfin sur Internet. Et aujourd'hui, encore, c'est encore plus vrai, puisqu'aujourd'hui on peut tout à fait trafiquer des voix avec le deepfake, on peut trafiquer des photos, on peut... Bref, aujourd'hui, s'il y a vraiment une époque qui est confuse, c'est aujourd'hui, vraiment, on peut tout à fait parler avec une personne en se trompant tout à fait d'interlocuteur, en fait.
Donc, il y a toute cette partie-là qui est vraiment consacrée à l'intelligence artificielle, au chatbot, au fait qu'on peut dialoguer comme ça de façon virtuelle. Et puis, il y a une vraie intrigue de polar derrière où vous plongez votre personnage principal dans les zones frontières. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est tout votre roman qui porte sur les frontières, entre la France et l'Espagne, entre célibataire et marié, entre vie et mort, entre fantasme et réalité.
Oui, en fait, au départ, j'avais deux frontières en tête, puis il y en a d'autres qui sont juxtaposées. J'avais l'idée de la frontière entre le monde réel et le monde virtuel, et la frontière entre les morts et les vivants. Voilà, si j'étais parti sur ce postulat-là, je voulais explorer ces deux frontières-là. Et c'est vrai que, bon après, je voulais que mon polar, qui avait une dimension fortement technologique, trouver un contrepoint. Et ce contrepoint, ce serait l'arène, le cadre de l'histoire, qui au contraire ne devrait pas être technologique du tout. J'ai choisi un village en Ariège, dans les Pyrénées orientales, isolé. Un peu à l'abandon, avec une atmosphère un peu de décrépitude, d'humidité, voilà. Il fallait vraiment que ce soit tout le contraire. C'est pas du tout une smart city avec de la 5G partout. C'est vraiment un village où il y a des zones blanches, où on capte mal les réseaux, et où les gens vivent un peu comme il y a 20 ou 30 ans, dans le souvenir d'une mine qui a fermé, mais qui produit quand même du tungstène, c'est-à-dire un matériel qui est indispensable pour fabriquer les smartphones. Ça, c'est aussi un contraste.
Bien sûr, voilà. Avec des passages de migrants, avec des trafics transfrontaliers, avec la mafia.
Voilà, parce que l'idée, c'était que, bon, il y a Alexis, donc il a, bon, on peut peut-être le dire, parce que ça dévoile que l'amorce de l'histoire est... pour que l'auditeur comprenne les enjeux, c'est qu'en fait, évidemment, cette fille qu'il doit retrouver, ce serait sa fille à lui. Il aurait eu cette fille, il aurait conçu cet enfant peu de temps avant de se séparer de Clara, donc la fille qui lui est créée depuis le passé, en quelque sorte, depuis 26 ans. Et évidemment, il fallait que mon personnage ait quand même une motivation puissante pour, comme ça, mettre en péril son mariage et partir à la quête d'un fantôme qui l'a laissé tomber il y a 26 ans. Et évidemment, si cette fille n'avait appartenu qu'à Clara, du moins c'est ce qu'elle s'en défend, je me suis dit que le lecteur n'aurait sans doute pas compris que le protagoniste prenne autant de risques. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que je ne me prononce pas, enfin, en cet état de, au moment de notre discussion là ensemble, je pense qu'il faut laisser planer le doute. Est-ce que c'est vraiment son enfant?
On ne sait pas.
Le doute s'installe. Et puis, d'ailleurs, l'évidence semble dire que non. Et d'ailleurs, Alexis a cette inquiétude, c'est que évidemment Clara ait inventé cette histoire pour le précipiter lui dans cette histoire, pour lui donner une motivation.
Ah ben, rien n'est absolument clair dans cette histoire, du début jusqu'à la fin.
Non, ça repose à la fois sur un pari et surtout sur un souvenir, c'est-à-dire que Alexis est toujours amoureux de Clara, qu'il n'a jamais oublié, ce qui ne retranche rien au sentiment qu'il éprouve pour Clémence, mais Clara, ça reste quand même cette femme qu'il a comme ça idéalisée pendant toutes ces années, et c'est devenu une sorte de personnage un peu fantasmagorique, qui évidemment, c'est cette idée que, bon, là je développe un concept auquel je crois, je suis beaucoup intéressé aux relations à distance, parce que j'en ai connu aussi à titre personnel, il y a toujours une part d'autobiographie dans un roman, mais j'ai toujours pensé que les relations à distance étaient presque naturellement vouées à l'échec s'il n'y avait pas eu une cohabitation préalable. Vous partez en vacances, vous êtes adolescent, jeune, vous rencontrez une personne, vous avez une idylle avec elle qui va durer une semaine, puis après vous avez une longue séparation. L'échec est presque toujours assuré de ce type d'histoire. Parce que évidemment, comme vous ne connaissez finalement pas vraiment la personne, plus vous allez être séparés, et plus en fait vous allez charger cette personne d'un imaginaire. Et en fait, le risque, c'est qu'au bout d'un moment, ce soit vous, cette personne, ce soit en fait une sorte de réplique de vous-même, et que vous soyez dans un piège narcissique.
Un miroir.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est Narcisse, quoi. Vous êtes amoureux de votre propre miroir, et évidemment, on peut aller très très loin. Et je me suis même fait une réflexion qui là vraiment est personnelle et qui n'engage que moi. Bon, je suis agnostique. Hein, voilà, je ne suis pas croyant. Je ne suis pas, j'ai pas de certitude, donc je suis agnostique. Mais j'ai toujours un peu, enfin, je pense quand même que dans la religion, cette espèce de communion qu'on peut avoir avec une divinité, un monothéiste ou pas, la prière par exemple, ressemble beaucoup aux relations qu'on peut avoir avec un être aimé qui serait loin et auquel on penserait toute la journée et auquel on s'adresserait comme ça par-delà la distance, ou comme dans un deuil par exemple.
C'est une très belle image ça.
Pardon. Voilà.
C'est très belle image.
Je me suis dit finalement la religion c'est peut-être ça en fait, c'est cette relation à distance qui relève d'une sorte de vision narcissique de soi-même en fait. Moi je pense que Dieu n'existe pas, mais que on peut construire des cathédrales sur sa propre projection narcissique, en fait.
Ah, Dieu est-il un chatbot?
Ah bah.
Pour le savoir, moi, je vous recommande de lire Sauve, là, le roman de Sylvain Forge qui est paru aux éditions Fayard. Merci beaucoup. Alors, merci comme Clara et Alexis ont vécu des amours en Hollande, à Dublin et au Québec, eh ben, j'ai choisi Beau Dommage, j'ai oublié mes bagues pour finir avec ce livre très bien. Merci beaucoup.
Merci pour votre accueil. À très bientôt. Merci.
lecteur asseyé m'impressionner.
Mais que s'est-il passé en ex-Yougoslavie à l'orée des années 90 pour que tout le pays s'embrase alors que les différentes communautés le composant semblaient vivre en harmonie? Si l'on en croit Demain la brume, le dernier roman de Timothée Demière, paru chez Asphalt Éditions, une simple chanson ne serait pas étrangère au début du conflit. Un tragique battement d'ailes de papillon. Bonjour Timothée.
Bonjour Patrick.
Alors après les abattoirs et les misères des ouvriers qui travaillent dans jusqu'à la bête, la boucherie de Vukovar, qu'est-ce qui t'a amené à aborder cette période de l'histoire contemporaine ?
Eh ben, il y a plusieurs choses. Avant tout, c'est mon intérêt assez profond pour les Balkans qui remonte à il y a assez longtemps, voire même il y a très longtemps, quand j'étais tout petit, dès l'âge de 7-8 ans, j'étais déjà, je crois, assez obnubilé par ça, dans une espèce de fascination un peu morbide. J'étais sûr que cette guerre que dont je voyais je m'abreuvais d'images à la télévision allait déborder jusqu'en France et que mon père allait devoir partir pour cette guerre. Et je sais pas, de cette fascination un peu étrange, de cette obsession un peu étrange, est née une passion pour les pays d'Europe de l'Est et des Balkans. J'ai commencé à apprendre la langue, j'ai commencé à tout prix à vouloir m'y rendre, ce que j'ai fait après mes études réalisant un premier film documentaire à Vukovar, où j'ai entendu parler un petit peu plus de la situation de cette ville, à la fois du siège terrible qui s'y est déroulé, et ensuite de la situation aujourd'hui qui est tout aussi dramatique, une ville complètement meurtrie et divisée entre les Serbes et les Croates, toujours presque 30 ans après le conflit. Donc c'est comme ça que ça m'est amené, que j'ai été amené à vouloir parler de ça, à vouloir raconter cette histoire. C'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était ma volonté de parler du basculement, c'est-à-dire de parler comment une société bascule dans la guerre, comment au quotidien, par des petits échanges, des échanges verbaux, par, je sais pas, des incidents, on sent approcher une guerre. Et c'est ça vraiment, c'était vraiment ça dont j'avais envie de parler dans le livre, de parler là, de ces mois compris.
Ouais, c'est tout à fait fascinant. Ça commence en fait tout bêtement par un simple titre de rap rock qui est intitulé Fuck You, Yougoslavie, qui est composé par deux copains, Jimmy et Damir, en compagnie de Nada, une cousine, et c'est un morceau provocateur, mais sans commune mesure avec la façon dont il va être récupéré et exploité par les nationalistes. On a l'impression que ça leur échappe complètement, ils ont allumé la mèche, mais sans le savoir.
Ouais, ça leur échappe totalement, et ça c'est un fait pour lequel j'ai fait pas mal de recherches, et en effet, on est dans les années 80, en Yougoslavie, dans une véritable période de création assez dingue musicalement. Il y a vraiment un vrai courant, ce qu'ils appellent la nouvelle vague yougoslave, avec un côté un peu new wave, punk, qui émerge de partout, avec des super groupes, une scène vraiment assez, avec une certaine libéralisation aussi du pouvoir. Et c'est une jeunesse qui, comment dire, est assez critique face au régime, mais n'est pas dans une volonté véritablement pro-occidentale. C'est-à-dire qu'ils ont juste envie que les types qui sont au pouvoir depuis des décennies dégagent et laissent la place à la jeunesse. Ils trouvent que c'est un peu trop vieillot et un peu trop poussiéreux. Et donc ce titre, dans mon livre, qui est une fiction bien sûr, mais qui arrive un peu dans ce courant-là, c'est-à-dire à la fin des années 80, il lance ce titre « Fuck you, you », qui critique un peu des dirigeants au pouvoir. Sauf qu'on est à un moment très particulier de l'histoire. À partir de 87, on assiste à une véritable décrépitude des dirigeants communistes et une montée au pouvoir fulgurante de tous les dirigeants nationalistes, que ce soit en Serbie avec Milošević, que ce soit en Croatie avec Tudjman pendant les premières élections. Et tout ce qui pourra être récupéré pour leur cause nationaliste va l'être. Et on va vraiment... et tout ce qui peut finalement arriver à un éclatement, à une rupture de la Yougoslavie, va être utilisé. Et donc on se retrouve avec deux jeunes gars qui ont une vingtaine d'années, qui ont écrit un tube qui pour eux veut dire quelque chose, mais qui va être utilisé à leurs dépens, à l'inverse total du message qu'ils voulaient y mettre dans ce titre. Et donc qui va également aboutir à la séparation du groupe et à ses deux meilleurs potes, qui étaient deux potes d'enfance, Damir et Jimmy, qui vont se retrouver à prendre deux voies totalement différentes dans le conflit.
Leur séparation n'est même pas une volonté de leur part. C'est une séparation qui a été arrangée par leur producteur, qui a décidé de remettre un chanteur traditionnel dans le groupe avec Jimmy et d'évincer Damir. Et Jimmy, d'ailleurs, c'est très particulier parce que lui est à moitié serbe, à moitié croate. Mm-hmm. Donc, c'est pas du tout évident pour lui de se situer quelque part. Et les deux jeunes, pendant longtemps, vont nier, vont dire mais non, ça va s'arranger, on a toujours vécu ensemble, on sait même pas qui est qui. Et y a une phrase qui est assez terrible dans ton roman, c'est il n'y avait plus de vrai ou de faux, la vérité n'avait plus lieu d'être.
Eh ben oui, c'est ça qui est malheureux. C'est là ce que tu dis. Il y a plein de choses sur lesquelles je veux réagir, mais la première chose, donc il est de père serbe et de mère croate ou l'inverse, je sais plus exactement. Mais en gros, il est mixte. Il est dans un état. Il est vraiment un pur produit de la Yougoslavie. Et c'était pas du tout rare. T'as des villes comme Sarajevo, comme Vukovar, où les mariages mixtes étaient la majorité. Donc c'est des gens qui se retrouvent dans un conflit englué, dans un conflit ethnique, dans lequel on est sommé de prendre parti. On est sommé de choisir un camp ou l'autre. Et le fait même de ne pas choisir est vécu comme une trahison des deux côtés. Et ça, c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de se mettre en retrait. Ou la seule possibilité, justement, c'est de se mettre en retrait et de quitter son pays. Ce que Damir va finir par faire, un peu contraint et forcé, parce qu'il ne veut pas, justement, avoir à répondre d'un nationaliste ou de l'autre. Et sur le côté, ce que tu disais sur la vérité, quand on se retrouve avec des régimes à l'époque, dans les années 90, dans les mois, les semaines qui précèdent la guerre, où toutes les nouvelles qui sont déversé par les télévisions nationales, donc on a dans chaque pays qui se crée une télévision nationale, au même titre que même un label musical national qui va se mettre à produire que de la musique nationaliste qui était auparavant interdite. Toutes les nouvelles qui sont véhiculées, est ce qu'on appellerait aujourd'hui des fake news ou alors des espèces de faits divers qui sont complètement exagérés et qui est teinté d'une coloration systématiquement ethnique pour arriver à créer un ennemi commun, pour galvaniser une population et la préparer au conflit.
C'est une machine à fabriquer de la haine.
C'est une machine à fabriquer de la haine, bien sûr. Je vais pas faire un parallèle un peu tiré par les cheveux, mais on peut se retrouver ça sur quelques chaînes d'information, dans certaines émissions, avec certains chroniqueurs qui sont un peu dans cette rhétorique-là en permanence.
Ouais, qui viennent par exemple d'être condamnés pour incitation à la haine raciale.
Voilà, par exemple, ce genre de personnes. Voilà. Mais ça reste heureusement assez mineur, alors qu'à l'époque, c'était l'appareil étatique entier qui se mettait au service de cette idéologie-là. Et donc oui, il n'y a plus de vérité, parce que la vérité, la vérité, c'est quoi? C'est ce que nous disent les médias, c'est ce que nous dit l'information, c'est ce qu'écrivent les journaux, et à l'époque, cette vérité-là n'est plus qu'un mensonge. Et donc, c'est ça le gros problème, c'est que ceux qui veulent rétablir la vérité deviennent tellement minoritaires, on donne la voix aux plus bruyants, aux plus nationalistes et aux plus fanatiques, et les autres se retrouvent dans l'opposition. Et c'est ça qui est dramatique dans ce genre de conflit.
Et il y a un personnage qui est important aussi, qui est en France. Et parce qu'il y a une partie du roman qui se passe en France. Moi, j'adore, c'est la ville qui signifie jamais, à Nevers.
Nevers, oui.
Et il y a un personnage qui s'appelle Pierre-Yves, qui ne sait pas franchement trop où se situer. Il est entre l'extrême-gauche et le fascisme bontain. Et il va se retrouver pris dans cet engrenage-là, épris d'absolu, épris de quoi ? Il va se retrouver à partir à Vukovar pour se battre, mais on ne sait pas trop pourquoi, lui non plus d'ailleurs.
Eh ben Pierre-Yves, c'est le personnage un peu clé du roman, celui qu'on accompagne à travers tout le roman. C'est finalement c'est son histoire qui est racontée, sauf qu'il est jamais narrateur, donc il est raconté par six autres différents personnages qui vont tous le croiser à un moment ou un autre, qui vont passer plus ou moins de temps avec lui. Et Pierre-Yves, il m'a été inspiré d'une personne qui a véritablement existé, qui s'appelle Jean-Michel Nicolier, qui est en Croatie un véritable héros et qui est un des premiers volontaires étrangers, donc français, qui est parti se battre pour la Croatie au tout début de la guerre. Et il s'est retrouvé à Vukovar. Et finalement il a terminé sa vie dans un des premiers charniers absolument atroces de ces guerres de Yougoslavie. On n'a jamais retrouvé son corps, et aujourd'hui en Croatie c'est un véritable héros, c'est vraiment le symbole du dévouement à la cause croate, puisqu'il n'avait aucun lien avec la Croatie, aucune origine, il est juste parti. Et justement, ce qui m'intéressait, c'était de me questionner pourquoi il est parti. Et je voulais pas forcément donner une réponse. Je trouvais que le fait de donner une réponse, ça l'enfermait dans un carcan. Parce qu'il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui se mélangent. Il y a une quête d'idéal, il y a une quête d'aventure. Il y a sûrement des raisons politiques. À l'époque, il y avait pas mal de jeunes qui partaient en Croatie, qui étaient des militants d'extrême droite, mais qui rêvaient quand même avec cette espèce d'idéal de la guerre, de ces brigades internationales de la guerre d'Espagne. Donc, il y avait quand même toujours aussi ce côté un petit peu révolutionnaire qui restait là, une espèce d'extrême droite révolutionnaire, quelque chose peut-être d'assez dur à saisir. Mais je voulais pas le figer en disant c'est un facho ou simplement l'enfermer dans une case parce que ça aurait finalement, je pense, atténué un petit peu la portée de son engagement ou finalement ça aurait réduit un petit peu son personnage. Et je voulais aussi que chaque personnage dans le livre éclaire une différente facette de sa personnalité.
On sent bien qu'il a un vernis culturel, idéologique, mais qu'il n'y a rien derrière, qu'il est plus attiré par le vide que par autre chose en fait.
Exactement, c'est des jeunes désenchantés, et c'est surtout de ça aussi, enfin, dont parle le livre beaucoup, c'est aussi ces espèces d'engagement à la vingtaine, quand on croit dur comme fer à des causes, et puis ça s'érode très vite, ça s'efface très vite, c'est surtout quelque chose de surface.
Aujourd'hui, il serait parti en Syrie.
Il aurait pu partir en Syrie. Et c'est intéressant, c'est quand on regarde même le profil des jeunes qui sont partis en Syrie, c'est pas forcément le profil qu'on pense, c'est-à-dire qu'on présente souvent ça comme des jeunes de banlieue, dealers de shit, etc. Mais c'est quand même beaucoup de jeunes souvent de l'issue de l'immigration, mais de classe un peu moyenne inférieure ou justement de classe populaire supérieure. C'est des jeunes qui ont plutôt de familles sans problème, qui n'ont jamais eu de problème mais à qui il manque peut-être quelque chose. Et ce Pierre-Yves dans le livre, c'est la même chose. C'est un type désenchanté qui grandit aussi à une époque, le début des années 90, où il y a un effondrement total des idéologies, un rechamboulement total avec la chute du communisme, victoire triomphante du capitalisme des États-Unis dans cette guerre froide qui dure depuis 40 ans. Et un vide total idéologique. On peut plus croire dans l'extrême gauche. Il y a plus de sortie possible dans l'extrême gauche. On annonce la fin de l'histoire, la victoire du capitalisme. Alors on croit quoi, quoi ? En quoi croire plutôt, pas en croire quoi. Mais oui.
C'est pas facile à dire. Non. Et là, on est à Vukovar, ville martyre. Il y a une chose qui est importante, c'est que ton livre il revient sur le cliché du gentil croate et du méchant serbe. Ça remet en question absolument toute l'histoire officielle, celle qu'on a voulu nous faire avaler pendant des mois et des mois et des mois.
Oui et non. Enfin, comment dire ? C'est-à-dire que si...
Ça remet les choses à leur place. Il n'y a plus gentil ni méchant. Il y a des gens qui sont dressés l'un contre l'autre.
Bien sûr, bien sûr. Dans le livre, en effet, parce que mon choix, ça a été de traiter ça par l'intime, par... l'individu, de voir comment la vie bascule chez les individus, comment on s'engage chez les individus, comment la propagande était dans chaque camp. Voilà. Et donc, en ce sens-là, ça relativise d'une certaine manière, ça met les choses un petit peu à égalité. Sauf que si tu me demandes personnellement, et tu me demandes de prendre un peu du recul sur la situation, on a quand même une situation, notamment à Vukovar, où on a une armée fédérale avec des tanks et des obus et des avions qui va s'acharner pendant 3 mois sur une ville où vivent des civils, des anciens frères, et qui se défend avec 3 fusils. Et voilà, donc on a quand même un déséquilibre de force au service d'une idéologie nationaliste, pour ne pas la nommer les Serbes, qui crée quand même un tel déséquilibre qui fait que, je pense qu'en termes géopolitiques ou internationaux, si on discutait au-delà de mon livre, au-delà du sort d'individus, je pense qu'en effet, il y a quand même un déséquilibre qui fait qu'on peut prendre position pour l'un ou pour l'autre. Le problème, c'est en effet le récit qu'on a fait ensuite. Quand on est en Croatie, on écoute les récits des Croates, ils ont été tout blancs pendant la guerre, il n'y a jamais eu de crime de leur côté, ils n'ont été que purement et simplement des victimes, alors que c'est pas le cas. Il y a un véritable problème en Croatie, mais enfin en Serbie et beaucoup dans les Balkans en général, des peuples qui n'arrivent pas à se pencher sur leur histoire et qui n'arrivent pas à reconnaître leur tort dans ces guerres. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui pour la réconciliation dans les Balkans.
Exactement pareil que les Polonais qui n'ont jamais été antisémites.
Voilà, exactement.
C'est exactement la même chose. Merci beaucoup, Timothée. Je rappelle ton livre. C'est Demain la brume. C'est comprendre le conflit yougoslave, comprendre ce qui s'est passé à Vukovar, comprendre au plus près des gens comment une guerre civile peut se déclencher. Et on va écouter Dire Straits, Brothers in Arms. Thank you.
covered mountains are all now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms.
Un soupçon de liberté maintenant, c'est un roman de Margaret Wilkerson Sexton qui est paru aux éditions Actes Sud, qui a été traduit de l'anglais aux États-Unis par Laure Mistral. Alors 1944, 1986, 2010, trois époques, trois générations d'une famille afro-américaine de la Nouvelle-Orléans. C'est une dynastie fondée par Nelson, le premier médecin noir de la ville, et qui raconte l'histoire d'une famille et de son entourage confrontée au racisme, à la ségrégation, à l'impossibilité, malgré tous les efforts fournis, de trouver une place dans une société fermée à double tour par l'oligarchie blanche. Tour à tour, on suit les parcours de Evelyn, Ruby, Jackie ou Tissy de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite sous Reagan et son libéralisme terrible pour les classes populaires, ou après le passage de Katrina dans une ville qui était dans une désolation totale. Le lecteur retrouve les descendants de Nelson dans des situations de plus en plus difficiles. C'est un très beau premier roman, sans pathos inutile, qui décrivant parfaitement les ravages du racisme, de la drogue et le poison qui ronge l'Amérique d'aujourd'hui, loin de s'arranger avec son président actuel, fervent défenseur des suprémacistes blancs, et le pire est peut-être à venir. On s'écoute Anita Baker, Sweet Love. Stay with me, Également engagé dans l'aventure Alibi, dont nous avons parlé en juillet dernier avec Marc Fernandez, Alice Monéger a pris la direction éditoriale de toutes nouvelles éditions Filature, une maison dédiée au polar et à la littérature noire. Bonjour Alice.
Bonjour.
Alors, que du noir au programme des éditions Filature ?
Que du noir au programme des éditions Filature, puisque le projet de maison d'édition Filature, c'est le pendant d'Alibi. Donc, Alibi, la ligne éditoriale est la même que pour Filature. C'est le polar qui éclaire la réalité. Et Filature, voilà, c'est le polar qui éclaire la réalité. Alors, surtout de la fiction. Il y aura aussi des récits, mais l'idée, c'est vraiment de faire ce que j'aime. Donc ça, c'est quand même une chance extraordinaire.
Oh là là, m'en parlez pas.
Moi, ce que j'aime dans le polar, c'est que ça éclaire un pan de la société, un univers que je ne connais pas et qui, par le biais de la fiction, permet au lecteur d'apprendre quelque chose. Alors, il ne s'agit pas d'être didactique ou de dénoncer de manière... on n'est pas dans le polar politique engagé. Il s'agit plutôt de raconter la société telle qu'elle est.
D'éclairer voilà. Le noir.
Voilà.
Et moi, vous allez pouvoir m'éclairer justement pourquoi ces parenthèses autour du S final de Filature.
Alors,
ça fait des mois que je me demande.
Alors, en fait, Filature, déjà, le mot, on l'a choisi parce que quand on a repensé la nouvelle mouture d'Alibi, on s'est amusé à utiliser tout le champ lexical de l'enquête. Procès-verbal, garde à vue quand c'est une interview sous forme de questions-réponses, portrait-robot pour la BD reportage, tapissage pour le portfolio photo, etc. Et filature, une filature, qu'est-ce que c'est une filature ? Alors, au sens littéral, c'est tirer le fil qui permet de tisser, donc tirer le fil qui permet de tisser des mots entre eux, de faire des phrases, puis une histoire. Mais une filature, c'est aussi prendre quelqu'un en filature dans le cadre de l'enquête pour
savoir où il va.
En flagrant délit. Le S entre parenthèses, alors si je suis tout à fait honnête, je ne sais plus comment l'idée nous est. En fait, on trouvait ça joli avec le logo et surtout parce que ça permettait de dire on peut faire différentes choses. On peut faire de la fiction, on peut faire de la non-fiction et ce S permettait de multiplier les possibilités.
Ah d'accord, ça ouvre des champs.
Pardon ?
Ça ouvre des champs.
Voilà, ça ouvre des champs. Alors, si j'étais une pro du marketing, je vous dirais que c'est très, très bien pensé. je crois que, bon, je suis un peu trop honnête pour raconter des salades, mais en tout cas, c'était à la fois ouvrir différents champs et aussi parce que quand on a travaillé avec Éric Laurin, qui est un directeur artistique qui travaille beaucoup dans l'univers de la BD, et qu'il a travaillé sur une typo de couverture qu'il a lui-même dessinée. Ce jeu avec un S, entre parenthèses, nous plaisait.
Voilà. Eh ben moi, j'aime bien votre explication, finalement. Donc, Filature, c'est adossé aux éditions d'Argo, qui est apparemment une volonté de se diversifier, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de polars dans les nouvelles BD qui sortent.
Tout à fait. Et chez Dargo, il y a vraiment déjà une forte communauté d'auteurs et de dessinateurs, de scénaristes et de lecteurs de polar. Et donc, Dargo avait eu envie de, et a toujours envie d'ailleurs, parce que ça fait pas longtemps qu'on a commencé, de tourner autour d'un genre. Alors, à 360 degrés, c'est un petit peu exagéré, mais au maximum. Donc, à la fois en BD, en polar texte, donc en noir, comme disent les éditeurs de BD, la revue, évidemment, et aussi une autre déclinaison qu'on développe de plus en plus, ce sont des podcasts autour du polar. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire, d'élargir le compas, et puis évidemment, dans l'idée, c'est d'avoir des adaptations audiovisuelles des livres, etc.
La totale. Et donc, production, ce sera des auteurs français, des traductions ?
Alors, un peu les deux. Moi, au départ, je viens plutôt de la littérature étrangère parce que je me suis occupée pendant un long moment des éditions du Masque, où j'étais arrivée pour m'occuper de la littérature étrangère. Donc, moi, c'est ce que je connais bien. Et puis, la littérature étrangère, ça permet de... Quand on commence... C'est plus facile, entre guillemets, parce que vous avez un texte qui est terminé, qu'il faut évidemment faire traduire, mais on part d'une base existante et qui a déjà une première vie dans un autre pays. Donc, c'est plus rassurant. Mais pour Filature, en fait, on fait les deux. Alors, quand même, l'immense majorité en français, parce que c'est chouette de découvrir un auteur français qu'on a sous la main, donc on peut travailler avec lui, de faire émerger un texte. Et puis aussi, après, tout simplement, c'est plus facile parce qu'il peut plus facilement aller à des rencontres, des salons, etc. La production, elle est toute petite pour l'instant.
Oui, c'est ça, j'allais vous demander le rythme de parution à peu près.
Alors là, en 2020, sachant que... Nous avons eu l'excellente idée de tout lancer le 3 avril,
oui,
au Quai du Polar. Déjà, l'année commençait qu'au mois d'avril. Et on a, en 2020, on a 4 titres seulement, puisqu'on a commencé en avril et donc finalement que fin mai. On a publié 4 livres, un américain qui s'appelle Henry Chang. Chinatown Beat, qu'on avait publié donc pour les Quais du Polar parce qu'il était invité, donc traduit de l'anglais. Lui, l'auteur, c'est ce qu'on appelle un American born Chinese, c'est-à-dire un Américain d'origine chinoise mais né en Amérique, et qui, lui, nous plonge dans le Chinatown qu'on ne connaît pas, qui est loin du Chinatown des canards laqués et des dim sum et des fortune cookies. Il nous raconte la mafia, les cercles de jeu, l'exploitation des clandestins et le racisme énorme, enfin très important, qu'il y a entre la communauté chinoise et la communauté blanche et noire et les autres communautés. En fait, c'est très communautariste et il met en scène un enquêteur d'origine chinoise, qui est un peu le chinois de service, qui est muté dans un commissariat à Chinatown. Et en fait, alors l'intrigue se passe dans les années 2000, mais en fait, dans un monde où 99% de la population est chinoise, il y a seulement 1% des flics qui sont chinois.
Ouais, un petit peu comme
voilà.
Un petit peu comme partout.
Il raconte tout ça et moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il il vous prend par la main, il vous emmène à Chinatown et il prend le pouls de cette ville en racontant plusieurs intrigues.
Et le dernier né, L'arme de fond de Pierre Poucheret.
Voilà, L'arme de fond de Pierre Poucheret.
Qui est une sorte de bilan de tout ce qu'il a écrit avant.
Voilà, Pierre Poucheret, déjà, lui, il sait bien raconter des histoires. Il a toute son expérience, toute sa carrière... comme flic à la PJ et au STUP et puis à l'étranger, qui fait qu'il connaît extrêmement bien le terrain. Quand on lit un interrogatoire ou quand on est en planque avec ses héroïnes, on y est vraiment, quoi.
Pierre était avec nous le mois dernier, on en a parlé un petit peu. Et c'est vrai que c'est un roman étonnant parce qu'il arrive à reprendre les personnages de tous les romans qu'il a écrits auparavant.
Oui, et alors moi j'ai lu son tout dernier qui est paru chez Palémon.
L'île abandonnée.
L'île abandonnée, où on retrouve aussi Léane et ses deux amis, la psy et la médecin légiste. Et en fait, c'est très différent de L'arme de fond.
Oui, parce qu'il reprend tout. Et la prochaine sortie,
La prochaine sortie, c'est le 23 Oui, c'est le 23 octobre et c'est un... Alors, on a appelé ça... Alors, c'est pas nous qui avons trouvé le terme, hein, mais c'est un roman-quête, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un récit à la première personne. Ça s'appelle « Laisse pas traîner ton fils » de Rachid Santaki. Et c'est... Rachid Santaki, c'est un acteur culturel du 93, c'est le fondateur de la dictée géante. C'est...
Ouais, ouais.
C'est des grandes dictées comme ça qui rassemblent divers publics pour essayer, autour de la langue française et de la culture, de créer de la cohésion dans les quartiers, comme on dit. Et qui part d'un fait divers réel, qui est ce fait divers horrible. C'était en 2018. Un jeune homme a été lynché par trois autres jeunes, dont un mineur, donc tabassé à mort au bord du canal de l'Ourcq. Et le troisième de la bande a filmé ce lynchage. On a fait une vidéo en mettant du rap dessus et l'a publié sur Snapchat. Et en fait, cette vidéo est devenue virale. C'est comme ça que la famille de la victime s'est rendu compte que parce qu'il avait disparu, qu'il avait été lynché. Et finalement, le jeune homme est mort. Les trois auteurs du lynchage ont été arrêtés. Mais cette question qui taraude Rachid Santaki, qui vit à Saint-Denis, qui participe aux marches blanches avec les familles des victimes, c'est comment on en est arrivé à cette violence-là ? Qui part de
la réponse dans votre prochain ouvrage.
C'est le constat qui est un petit peu triste, c'est que l'éducation, la culture, ça aide, mais que la loi de la rue et de la cité, elle reste.
Mais ça ne suffit pas toujours.
C'est une plongée là-dedans. Donc, c'est les ateliers d'écriture en centre de détention pour mineurs, c'est le suivi du procès. Pour essayer de comprendre ce qui peut se passer dans la tête de ces jeunes. Et donc avec des parcours de vie assez terribles, évidemment.
Merci beaucoup, Alice Ménager. Voilà. Merci beaucoup. On en sait plus sur Filature, sur les éditions Filature et sur les prochaines sorties. Pour se quitter, moi j'ai piqué un titre à Pierre dans L'Arme de fond, c'est Aerosmith, I don't want to miss a thing. Merci beaucoup et puis bonne chance, bon vent aux éditions Filature.
Merci à vous.
Don't want
Fin de la parenthèse enchantée, il est temps de retourner affronter virus et intempéries et crise économique et tout le toutim, masqué bien sûr et chaudement vêtu. Si tout se passe bien, si la Covid nous lâche un peu, le prochain numéro de Des Polars et des Notes sera enregistré dans les tout nouveaux, tout beaux studios de Radio Évasion. Et ça, c'est une excellente nouvelle. À bientôt donc, bye bye.